Vous êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Au moins 29 Palestiniens ont été tués hier dans une école du sud de la bande de Gaza. Regardons votre journal sur la situation humanitaire catastrophique dans l'enclave palestinienne avec Lucille Marbeau, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge à Paris. La situation politique en France, vue du Maroc, les résultats des élections législatives y ont été regardés avec attention en raison du score de l'extrême droite et aussi de l'arrivée en tête du Front populaire. Notre invité sera le journaliste et politologue marocain Abdallah Tourabi. En pleine incertitude sur les contours, mais aussi sur la couleur politique du futur gouvernement français à l'issue de ces législatives, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui et demain au sommet de l'OTAN à Washington. Les Bleus s'arrêtent en demi-finale de l'Euro, une défaite de 2-1 hier soir face à l'Espagne. Arthur Claude Savoie s'est rendu au communal de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis pour suivre le match. Reportage dans votre édition. L'offensive israélienne se poursuit dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a dit poursuivre ses opérations, notamment dans le siège de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens à Gazaville, mais aussi à Shujaya et Rafah, dans le sud de l'enclave. Au moins 29 Palestiniens ont été tués hier dans une école du sud de la bande de Gaza dans la quatrième frappe contre un établissement scolaire du territoire palestinien en 4 jours, une frappe attribuée par le Hamas à Israël. L'offensive terrestre ces derniers jours dans la ville de Gaza a poussé des dizaines de milliers de Palestiniens à fuir à la recherche d'un abri dans cette enclave assiégée. Les personnes déplacées qui ne sont nulle part à l'abri des frappes israéliennes. Lucille Marbeau, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge à Paris.
Ce sont vraiment des déplacements maintenant incessants pour la population civile de Gaza depuis 9 mois, d'une escalade, d'une violence absolument inouïe. Et il faut s'imaginer à quel point à chaque fois ces nouveaux déplacements représentent un éternel recommencement tragique pour là aujourd'hui des dizaines de milliers de familles. Un recommencement, c'est-à-dire qu'il faut de nouveau se déplacer dans la peur, de nouveau également trouver un toit, une tente, un lieu où pouvoir s'installer dans des zones déjà extrêmement densément peuplées, aux conditions absolument insalubres. Il faut trouver également de nouveau où pouvoir se procurer de l'eau potable, de la nourriture, également quel hôpital, quelle infrastructure médicale est à proximité au cas où on est malade. Donc c'est vraiment une situation absolument désespérée pour une population qui désormais est extrêmement affectée au niveau tant physique, du fait du manque d'assistance, mais aussi au niveau psychologique. Il faut s'imaginer que beaucoup aujourd'hui des Gazaouis ont perdu des membres de leur famille, sont en deuil, ne savent pas où ils sont, ne savent pas comment réussir à procurer, à trouver juste de quoi pouvoir nourrir leurs enfants. Donc la dimension psychologique, le stress constant est absolument affreux.
Vous aviez craint il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, le développement d'épidémies dans la bande de Gaza. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Je n'ai pas eu de remontée précise de nos équipes médicales récemment, mais nous le savons depuis quelques mois, malheureusement, il y a des cas d'hépatite A qui sont directement liés au manque d'accès à l'eau potable. Et bien entendu que les conditions insalubres dans les camps de déplacés aujourd'hui, où il n'y a pas suffisamment de latrines, aujourd'hui bien entendu que les déchets ne sont pas traités, les eaux usées également débordent souvent dans les rues, et alliées aujourd'hui à la très forte chaleur, bien entendu que c'est un cocktail absolument explosif au niveau de développement d'épidémies type également choléra, mais fort heureusement pour le moment, nous ne sommes pas du tout sur une échelle absolument gigantesque, mais bien entendu que c'est une très grande crainte. Et pour éviter tout cela, il faut bien entendu que les personnes déjà puissent avoir plus largement accès à l'eau potable, plus largement accès aux soins, car bien entendu, aujourd'hui, le système sanitaire à Gaza s'est quasiment effondré. Il faut également qu'il y ait nettement plus d'assistance médicale, qui puissent rentrer dans la bande de Gaza pour pouvoir justement faire face à de telles épidémies. Et il faut également un espace humanitaire sécurisé sur l'ensemble de la bande de Gaza afin que les humanitaires puissent atteindre les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables.
Et vous soulignez que les personnes qui sont dans les camps de déplacés ne sont pas à l'abri des bombardements israéliens.
Aujourd'hui, il n'y a aucun sens de sécurité nulle part à Gaza et cela malheureusement ne date pas d'hier. Et le CICR, dans son dialogue en fait constant et confidentiel avec les parties au conflit, rappelle leurs obligations en vertu du droit international humanitaire. Il y a ce qui touche à ce qu'on appelle la conduite des hostilités, c'est-à-dire la façon de faire la guerre, qui impose ce qu'on appelle la distinction. Faire la distinction entre les civils, les infrastructures civiles et les cibles militaires finalement légitimes. Mais il y a également les principes de proportionnalité et de précaution qui, dans la guerre en ville, comme c'est le cas ici, mais nous l'avons pu le voir ailleurs, comme par exemple à Mossoul, à Alep, ces principes de précaution et de proportionnalité prennent d'autant plus de sens que c'est ce qui permet d'épargner en fait le plus possible les civils des combats. Mais il y a également d'autres principes fondamentaux des conventions de Genève. Donc c'est le triste anniversaire cette année, les 75 ans, c'est la protection des civils, c'est le droit à l'assistance. C'est-à-dire que les parties, et notamment aujourd'hui Israël en tant que puissance occupante, a l'obligation de fournir le minimum vital à la population civile sous leur contrôle. Mais doublé à cela, si justement ils échouent à pouvoir justement donner le nécessaire, ils ont également l'obligation de nous laisser, nous, organisations humanitaires, œuvrer et ce, en toute sécurité.
Le CICR, qui depuis le 7 octobre dernier a un rôle de médiation dans la tentative de libération des otages du Hamas.
Tout à fait. Nous avons pu, et c'était un moment en fait d'espoir et de grand soulagement, bien entendu, en novembre, lorsque nous avons pu procéder à faciliter la libération de centaines d'otages. Mais malheureusement, le CICR est là dépendant des négociations entre les parties. Nous ne pouvons pas forcer à notre niveau un accord, la libération des otages, ni d'ailleurs de pouvoir les visiter, chose que le CICR réclame depuis le 7 octobre, de pouvoir avoir accès directement aux otages pour nous enquérir de leur état de santé, mais aussi faire passer des messages aux familles qui maintenant, depuis 9 mois, sont dans une angoisse indicible, absolument terrible. Personne ne peut se mettre à leur place tant ce qu'ils vivent est un calvaire absolument atroce. Et donc, nous entendons ces derniers jours qu'il y a de nouveau des négociations et bien entendu que nous souhaitons que cela puisse aboutir à de nouvelles libérations d'otages, mais également à une pause dans les hostilités qui nous permettrait également de faire rentrer nettement plus d'assistance et de pouvoir procéder à des distributions larges au niveau de toute la bande de Gaza.
Lucille Marbeau, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge à Paris. Un adolescent a été tué par balle hier par l'armée israélienne en Cisjordanie occupée. C'est arrivé à Deir Abou Mishal dans le district de Ramallah. Une annonce du ministère de la Santé de l'autorité palestinienne. Ghassan Gharib Zahran était âgé de 13 ans. Alors que le flou demeure sur les contours mais aussi sur la couleur politique du futur gouvernement français à l'issue des élections législatives, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui et demain au sommet de l'OTAN à Washington. L'Ukraine est une nouvelle fois au cœur de ce sommet. L'OTAN fête cette année ses 75 ans. Et en France, après le second tour des élections législatives, eh bien les formations politiques restent à la recherche d'une solution. Le scrutin n'a donné aucune majorité claire. La situation est inédite sous la Ve République. Au Maroc, ces élections ont été suivies avec attention en raison du score de l'extrême droite au premier tour et de l'arrivée en tête du Front populaire. Au second tour, entretien avec le politologue et journaliste marocain Abdallah Tourabi.
On sait très bien que les élections, présidentielles ou législatives en France sont extrêmement bien suivies au Maroc, pour différentes raisons. Enfin, on ne va pas revenir sur les raisons historiques de cet intérêt, mais ces dernières élections ont été particulièrement importantes. Il n'y avait pas beaucoup de réactions de la part des politiques marocains. Il n'y a pas de réaction ni de l'État marocain, ni des politiques, des partis politiques marocains, ni bien sûr du gouvernement marocain, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, auprès de l'opinion publique, il y avait un certain intérêt. Il y a différentes raisons. Pourquoi ces élections étaient très, très importantes et très suivies au Maroc? Deuxième chose, parce que c'est un moment qui est assez important et c'est historique. En France, parce que avec le spectre, pour certains, cette peur de voir l'extrême droite accéder au pouvoir. Donc, il y avait cette première donnée. Deuxième chose, et peut-être qu'on pourrait revenir sur ça aussi, comme vous le savez, la question la plus importante au Maroc, et la question qui est la question nationale, c'est la question du Sahara. Vous savez, le Sahara occidental est un territoire qui est contesté. Et donc, le prochain gouvernement, ou voilà, la prochaine majorité qui est au pouvoir, aura bien sûr des positions sur cette question-là. Donc, il y avait une certaine attente. Donc, je pense qu'il y avait ces deux éléments, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir avec le fait qu'il y a 1,5 million de Marocains, que ce soit des binationaux ou des résidents en France, qui sont sur le territoire français, 50 000 étudiants qui suivent leurs études dans les universités, dans les instituts en France, et il y a presque 270 000 visas, une demande de visa pour la France qui sont traitées par les services consulaires et l'ambassade de France au Maroc. Donc tous ces éléments ont fait que cette question, les élections législatives françaises en ce moment, ont été extrêmement bien suivies. Et bien sûr, chacun allait de son propre avis, sa propre opinion.
Alors, Monsieur Tourabi, voilà, vous le savez, le nouveau Front populaire l'a emporté ces élections législatives. Alors, c'est pas une avance incroyable, il ne bénéficie pas d'une majorité absolue, c'est quand même serré, mais c'est le grand vainqueur de ces élections. Comment, au Maroc, ce nouveau Front populaire est perçu?
Bon, bien sûr, il y a plusieurs perceptions, de la gauche au Maroc. Enfin, bien sûr, ça dépend de qui émet cette opinion ou cet avis. Alors, bien sûr, le personnage de Mélenchon, il est assez sympathique au Maroc, il est assez apprécié pour des fois différentes raisons. C'est un trub, c'est un politique hors pair. Mais il y a aussi ce fait qu'il soit natif de Tanger, donc voilà, il y a ce côté-là, qui le rend sympathique auprès de beaucoup de Marocains. Mais voilà, je pense pas que ce qui fait les politiques, que ce soit l'État marocain ou les opinions publiques, soit lié uniquement à cette question. Bien sûr, pour une partie de Marocains, la victoire de la gauche serait une victoire toute relative, et cette victoire était bien accueillie. Parce qu'il y avait une appréhension, il y avait une crainte de la montée de l'extrême droite avec des conséquences qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire des politiques, des décisions, des mesures qui pourraient pourrir la vie à des milliers de Marocains, que ce soit des étudiants, que ce soit des résidents en France, que ce soit des demandeurs de visa pour des raisons médicales ou pour des raisons personnelles. Donc, il y avait un soulagement de voir l'extrême gauche, ou la gauche accéder au pouvoir, gagner les élections en France. D'ailleurs, juste pour un indicateur, c'est que la 9e circonscription dont fait partie le Maroc a été remportée avec un score de 75%, remportée par un candidat du Nouveau Front populaire. Donc voilà, 75%, et au Maroc, la liste qui est arrivée première était la liste justement du Nouveau Front populaire, c'est-à-dire celle de la gauche. Mais d'un autre côté, il y a des appréhensions, il y a des craintes. C'est-à-dire que les rapports entre la gauche et l'État marocain ont été toujours historiquement compliqués. C'est-à-dire qu'il y a un avis. Est-ce que ce qui relève du mythe ou qui relève de la réalité, de l'analyse politique, qui considère que l'État marocain s'entend mieux avec des gouvernements, avec un pouvoir de droite plutôt que de gauche. Parce qu'il y avait des épisodes historiques qui ont émaillé les relations entre deux pays. Mitterrand, plus tard, Hollande, etc. Donc les relations n'étaient pas au beau fixe. Donc il y a cette lecture qui considère que la gauche, les rapports ne sont pas souvent au beau fixe avec des gouvernements de gauche. Donc on aurait préféré, pour certains, ils auraient préféré que ce soit l'extrême droite. Pourquoi? Parce que chez certains dirigeants d'extrême droite, ils ont exprimé de manière explicite qu'ils pourraient soutenir la cause du Sahara ou soutenir la position marocaine sur le Sahara. Ciotti, par exemple, l'a exprimé. Des dirigeants, Thierry Mariani, par exemple, du Front National, Fédération Nationale, l'a exprimé aussi cette position. Donc, il y a deux points de vue qui se partagent, qui se distinguent au Maroc.
Abdellah Tourabi, journaliste et politologue au Maroc, il répondait à Wallis Glaise. Les Bleus quittent l'Euro 2024. L'équipe de France a été éliminée de buts à 1 par l'Espagne hier soir lors de la demi-finale. Je vous propose de suivre ce match au cœur des supporters qui voulaient bien entendu voir les Bleus atteindre la dernière étape de cette compétition. Arthur Claude Savoie est parti au communal de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis pour suivre le match. Plus de 1500 reporters y étaient réunis. Reportage.
On est bientôt à 1h du match, mais quel est votre ressenti?
Confiant, pressé pour la qualif, mais ça va le faire.
Je pense qu'ils vont gagner ce soir, j'en suis même sûr.
Je pense que ça va finir au tir au but comme à chaque fois.
Des supporters français confiants qui chantent à l'unisson l'hymne national.
Oh,
L'arbitre siffle, le match peut alors commencer. Les Espagnols prennent le contrôle du match pendant les 10 premières minutes. Mais à la 9e minute, Mbappé dépose un centre sur la tête de Kolo Muani. La France ouvre le score et mène 1-0.
C'est la folie, déjà 1-0, mais c'est pas terminé, il va rester 80 minutes de folie.
Magnifique. Faut mettre 3.
Dans l'élan de ce but, la France pousse offensivement. Mais à la 21e minute, la pépite barcelonaise Lamine Yamal va tromper Mac Maignan avec une superbe frappe dans la lucarne.
Ah, c'est qu'un but, il reste 70 minutes.
L'Espagne égalise et est en confiance. À la 25e minute, Olmo va doubler la mise en trompant Mac Maignan d'une superbe frappe croisée. L'Espagne mène alors 2-1 et a repris l'avantage au score.
Ah, c'est pas étonnant. Vu ce qu'on voit depuis le début de la compétition.
La mi-temps se finit sur un score de 2-1 pour l'Espagne, qui a su remonter et rapidement réagir après avoir encaissé un but très tôt dans le match.
Qu'est-ce que tu as pensé du coup de la première mi-temps ?
Alors c'était plutôt cool parce que la France a marqué très vite. L'Espagne elle est carrément au niveau, un peu plus que la France, donc ce sera une belle surprise si la France gagne. On verra la deuxième mi-temps comment ils vont revenir.
Moi je pense qu'on a bien commencé la mi-temps, mais le problème c'est qu'on se fait bouffer sur deux actions. J'ai un peu du mal à savoir comment on va s'en sortir. Faut pas perdre espoir. Et je pense qu'on a moyen de sortir un truc. Faut réussir à toucher Mbappé, Jesus Navas qui a un jaune. Il y a moyen qu'on fasse quelque chose.
La seconde mi-temps reprend et aussi les tensions. La France est plus que jamais offensive avec à la 53e minute une tête de Adrien Rabiot. S'ensuit alors à la 57e minute une frappe de Kylian Mbappé à plus de 16 mètres des cages, qui va être capté facilement par Simons.
On arrive à la 75e, les Bleus poussent, mais n'y arrivent pas. Est-ce que vous pensez qu'ils vont y arriver ?
Ouais, on peut encore y arriver, on est à fond là, on pousse, il reste 20 minutes presque, on peut y arriver. On y croit, on est là, on y croit.
C'est magnifique, c'est incroyable, c'est vraiment un beau match, hein, comme on a fait vivre.
Le coup de sifflet final retentit, la France s'incline donc 2-1 face à l'Espagne, qui gagne sa place en finale de l'Euro. Mais alors, les supporters français ont-ils des regrets ?
Ouais, je pense en première mi-temps, surtout les 15 premières minutes, où on aurait pu peut-être potentiellement mettre le deuxième but. Après, on savait que cette équipe était quand même globalement affaiblie, ou en tout cas en manque de confiance.
En vrai, je pense que c'était un très bon match de l'équipe d'Espagne. En vrai, ils sont favoris depuis le début de l'Euro, ils ont fait de très bons matchs. Et là, face à l'équipe de France qui a marqué que sur pénalty et en contre son camp, bah, ça a été sans appel pour l'équipe de France et l'équipe d'Espagne.
Une nouvelle désillusion pour l'équipe de France qui finit au pied du podium. Un euro compliqué offensivement qui se traduit par une défaite face à l'Espagne.
Et avec des supporters qui sont beaux joueurs. Un reportage signé Arthur-Claude Savoie. C'était au communal de Saint-Ouen. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est midi 18, à midi 30, votre journal en langue arabe. À 17h30 pour le journal en langue française, vous retrouverez Wallis Glaise. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Baptiste Ménard, adjoint au maire à Mont-Saint-Barœil, président de l'association Lueur Républicaine, membre de la Convention, émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.